Vous invite à lire dans votre Bible Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Et nous allons lire tout le chapitre. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu, c'est Moïse qui parle ici, l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie. Toi, ton fils, et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et les commandements, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées, que tu n'as point creusées, des vignes, des oliviers, que tu n'as point planté. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous les ennemis devant toi comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes et ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrites, tu diras à ton fils, « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, de grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il l'a fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. A presque envie de fermer la Bible, de laisser notre pensée méditer ces vérités, n'est-ce pas? Ce dimanche est dit dimanche la fête des mères. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont contentes, beaucoup d'enfants qui sont contents de faire des choses à l'égard de leur mère. Dans 15 jours, ce sera un dimanche dit la fête des pères. Il se trouve que le hasard du calendrier fait que les deux choses se situent dans le même mois. La Bible ne parle pas de fête des parents, d'une certaine manière, mais elle parle des parents. Et le texte que nous avons lu ici en témoigne. Et fête des mères, fête des pères sont des expressions qui maintenant tendent à disparaître. Du moins, certains voudraient que le concept parfois même de mère ou de père disparaisse pour pouvoir tenir compte des évolutions sociétales que l'on a dans notre société. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps que dans certains établissements scolaires, on propose de remplacer fête des pères ou fête des mères par la fête des gens qu'on aime. Parce que père-mère, ça devient quelque chose qui est relativement flou. La notion de la famille a évolué et avec elle, la notion de parent aussi a évolué. Parent 1, parent 2. Voilà comment les choses vont. Il y a même des personnes, psychiatres ou autres, des militants qui demandent purement et simplement la disparition de la famille, de la structure familiale nucléaire à laquelle nous sommes habitués depuis que le monde est monde. Pourquoi ? Parce que ces structures sont des outils, je lis, d'oppression des femmes. Et donc c'est tout un fondement qui est renversé. Et on pourrait citer, vous pouvez lire des livres sur toutes les attaques que subit la famille, tous ceux qui luttent contre. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Mort à la famille ». C'est un psychiatre, « Mort à la famille », carrément. Et où il dit que ce doit disparaître. Voilà, donc c'est un fondement, la famille, qui semble être renversé. Mais la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Autrement dit, le juste, il a quelque chose à faire quand les fondements sont renversés. On trouve ça dans le psaume 11. Et c'est la question qui se pose à nous et à laquelle nous voulons répondre tout au long de ce mois qui vient concernant ce fondement de la famille. Quand les fondements de la famille sont renversés, le chrétien, que ferait-il? Et il est de notre responsabilité, certainement, de rechercher ou de chercher à rétablir les fondements tels que Dieu les a décrits. Et donc, le thème de ce mois, c'est construire une famille en Christ dans un monde en crise. Et c'est vrai que notre monde est en crise et que la famille vit une crise dans ce monde, mais nous sommes appelés, en tant qu'enfant de Dieu, à construire une famille en Christ. Et le verset qu'on veut retenir comme verset thème, je trouve qu'il est dans le Nouveau Testament, mais il parle d'un événement dans l'Ancien Testament, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Je vous lis, ça ne sera pas le texte de notre message, c'est ce que nous avons lu, mais je vous lis ce verset qui est le verset clé, que vous pouvez mémoriser. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Pourquoi faire il a construit l'arche? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi il a construit l'arche? La Bible dit il construisit une arche pour sauver sa famille. Et quand la Bible parle de Noé, elle parle toujours de ce petit nombre, c'est-à-dire 8 petites familles qui a été sauvée. Le salut commence souvent par la famille. Et Dieu veut que ce soit dans la famille. Mais nous allons considérer aujourd'hui la question du rôle des parents, de la parentalité, de la responsabilité des parents telle que l'Écriture le définit. Parce que c'est un rôle qui est en crise, c'est un rôle qui est attaqué. Le passage que nous avons lu dans le Deutéronome, si vous avez été attentif, parle beaucoup du rapport que l'on doit entretenir avec la loi de Dieu. Partout, ça y est, dans tout le passage. On pourrait le résumer ainsi, c'est garder la loi de Dieu. Et puis après, on peut voir comment la garder. Mais le passage insiste vraiment sur ce fait. Et je veux dire quelque chose, c'est que lorsque les fondements sont renversés, il faut revenir à la parole, à la loi et au commandement de Dieu. Mais le passage que nous avons lu vise aussi la famille. Si vous avez été attentif, vous avez vu que ça parle aussi de la famille. Ce passage montre clairement que Dieu se soucie de la famille et de l'éducation des enfants au sein de la famille. Et donc, il parle aussi des parents et de ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants. Alors ici, on pourrait donner comme titre à notre message une parentalité centrée sur l'Évangile. Une parentalité centrée sur l'Évangile. Et je veux insister sur deux grandes vérités, peut-être qu'on peut voir dans ce passage concernant la famille. Premièrement, c'est que le projet de Dieu pour la famille est que sa parole gouverne toutes les sphères d'activité. Le projet de Dieu pour la famille, c'est que sa parole gouverne toutes les sphères d'activité. La lecture de ce chapitre montre clairement que l'enjeu, on l'a dit, c'est la parole de Dieu et la place qu'elle occupe dans l'individu, mais aussi dans le foyer, dans la famille et dans les générations, ici. Une parole qui doit être, on le voit, observée, qui doit être aimée dans le cœur, une parole qui doit être enseignée à la génération future, une parole qui ne doit pas être oubliée, une parole qui doit être expliquée. On trouve tout ça ici dans ce passage. Et on voit clairement, premièrement, que Dieu veut que chaque membre de la famille le craigne et s'attache à sa parole. Dieu veut que chaque membre de la famille, chaque individu, mais aussi chaque membre de la famille le craigne et aime, s'attache à sa parole. Et les parents et les enfants. Regardez le verset 2, donc on revient dans Deutéronome chapitre 6, verset 2. Déjà le verset 1 dit, voilà, Dieu a commandé de vous enseigner. L'enseignement de Dieu dans la famille, c'est un commandement. Dieu a commandé de vous enseigner afin que, ici, il dit Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous, les commandements, donc que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, et afin que tu craignes, voilà, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours ses commandements. Et puis au verset 13, il est encore dit, tu craindras lorsque tu, verset 12, lorsque tu mangeras, te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et tu serviras son nom, tu jureras par son nom. Et puis, à la fin, au verset 24, le parent qui parle maintenant, le parent répond, doit répondre à son enfant, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes les lois et de craindre l'Éternel. Dieu demande, exige qu'on le craigne, que la famille soit un lieu où il est craint. Et cette crainte se manifeste par un attachement à Dieu, un attachement à ses paroles. Écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel, verset 4. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne seront aujourd'hui dans ton cœur. Ces commandements que je te donne aujourd'hui, pardon, seront dans ton cœur. Donc c'est la manière par laquelle Dieu veut être craint. Que l'on considère son unicité, il est le seul Dieu, qu'on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et que sa parole vive dans le cœur. Que ce ne soit pas simplement quelque chose d'extérieur, à laquelle je vais de temps en temps, mais quelque chose qui vive et qui anime toute la vie de l'individu, particulièrement ici, du parent. Parce que la crainte de Dieu, la crainte ou non de Dieu, détermine les décisions et les choix que nous ferons, les orientations que nous donnerons à notre famille. Ça détermine les choix que les parents vont faire pour leurs enfants. Si vous craignez Dieu ou si vous ne le craignez pas, c'est ça la question. Ça change tout. Ça change tout. Une famille qui craint Dieu prendra certainement une certaine orientation. Une autre qui ne craint pas Dieu prendra une orientation différente. L'impiété même, la Bible dit, c'est l'absence de crainte. Romains chapitre 3, lorsque vous lisez et que l'apôtre Paul liste à partir de l'Ancien Testament tout ce qui caractérise l'impie, il a le gosier plein de méchanceté, etc. Il termine toute sa liste de méchanceté, si vous voulez, de l'impie en disant ils n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Ça termine comme ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il vient de dire, c'est la conséquence qu'il n'y a pas la crainte de Dieu devant les yeux. Et Dieu dit, attention, dans les familles, ce dont vous devez avoir, ce que vous devez cultiver, c'est une crainte de Dieu. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il y a danger, de dérive loin de Dieu. Et on a des exemples dans la Bible de familles qui ont fait des choses par la crainte de Dieu. C'est clairement indiqué concernant les parents de Moïse. Vous vous souvenez, les parents de Moïse, sa mère, elle a construit quoi ? Une corbeille, parfois on dit une arche, un peu comme Noé, pour faire quoi ? Pour sauver son enfant. Et voilà quelque chose, c'est la fête des mères aujourd'hui, qu'une mère doit surtout faire, construire une arche spirituelle pour sauver son enfant. Ça, c'est une responsabilité. Père-mère aussi. Mais là, comme on a l'exemple de Jochebed, je le dis pour les mères. Dans Hébreux 11, il est dit ceci, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. Donc, ce n'est pas par la foi de Moïse, ce n'est pas la foi des parents. Hein, que Moïse fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Vous voyez ici ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la crainte du roi, ils ont eu la crainte de Dieu. Et même si le roi a dit qu'il fallait tuer, qu'il fallait détruire, qu'il ne fallait plus avoir d'enfant, eh bien, ils n'ont pas eu peur de cette loi gouvernementale. Ils ont gardé leur enfant, ils ont tout fait pour le sauver. Ils n'ont pas avorté, ils ne l'ont pas abandonné, ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Et même les sages-femmes égyptiennes, écoutez ce que la Bible dit de ces sages-femmes en Exode chapitre 2, il dit ici, les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Vous voyez ici, c'est-à-dire que la crainte de Dieu détermine ce qu'on fait. Si on ne craint pas Dieu, on craint les hommes et on fait ce que dit toujours le roi d'Égypte. Ce que dit toujours l'opinion commune, ce que dit toujours l'État. Mais quand la crainte de Dieu anime le cœur, on analyse les choses. Est-ce que ce que je vais faire, c'est selon la volonté de Dieu? Et on voit ici que ces sages femmes, eh bien, elles agissent par crainte de Dieu et elles ne font pas ce que disent le roi et elles laissent vivre les enfants. Elles laissent vivre les enfants. L'absence de crainte de Dieu est ce qui nous fera échouer dans l'exercice de notre responsabilité parentale. Et même si vous n'avez pas d'enfants, même si vous n'êtes pas parents, ça nous concerne. L'absence de crainte de Dieu nous fera échouer dans tous nos projets. Parce qu'on aura ou la crainte de Dieu ou la crainte des hommes. Et on vit maintenant dans une société en crise où tout est renversé, où on présente d'autres choses comme étant la vérité. Si on ne craint pas Dieu et sa parole, on est sur le chemin de l'échec. Psaume 25, verset 1 dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » On dit « Je ne sais pas quoi faire. » Je ne sais pas, il faut faire ci, il faut faire ça. La Bible dit, ce dont tu as besoin, c'est de craindre Dieu en gardant ses commandements, en prenant appui sur ses commandements. Tu les connais, tu les apprends, tu les étudies, tu les médites, tu les gardes et tu crains de marcher en dehors de cela. Quand tu fais ça, Dieu te montre la voie que tu dois suivre. C'est David qui dit ça et David, il a connu des déboires dans sa vie. Poursuivi par son propre fils, il a dû se poser tout le temps cette question, quelle route je dois prendre, qu'est-ce que je dois faire ? Et là, il nous donne le témoignage, il dit que l'homme qui craint l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Dieu veut que chaque membre de la famille le craigne, mais Dieu veut aussi être connu de toutes les générations. C'est ce que ce texte nous dit dans Deutéronome. Il dit, afin que tu craignes l'Éternel, ça c'est toi, tu dois craindre l'Éternel. Il dit plus loin que sa parole doit être dans ton cœur, mais il ajoute, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Autrement dit, Dieu dit qu'il veut que sa parole pénètre non seulement les individus, non seulement les parents, mais qu'elle traverse les générations. Il veut que sa parole traverse les générations ici. Tu les inculqueras, un peu plus loin au verset 7, à tes enfants. Donc il faut que les parents soient conscients de cette réalité-là. Dieu se soucie d'être connu par les enfants. Ça nous donne quelle est la responsabilité des parents. Et il est intéressant de voir que dans l'histoire de la délivrance du peuple, l'histoire de la délivrance d'Égypte, qui est l'image de la rédemption et du salut, eh bien, Dieu agit de manière à viser la génération future, les enfants. Regardez en Exode chapitre 2, chapitre 10, pardon. Exode chapitre 10 et au verset 2. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. L'Éternel, pour avoir un petit peu de contexte, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » Voilà pourquoi je l'ai fait. Mais il dit aussi pour quelle raison il l'a fait. Regardez. Il dit, « C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils, d'accord, ton petit-fils, comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Dieu veut que l'on sache qu'il est l'Éternel, mais il veut que les parents le sachent, et que les parents et que les enfants après eux le sachent aussi. Donc ce que l'on voit ici, c'est que Dieu veut être connu par toutes les générations. Dieu dit qu'il agit dans le but que Moïse ait de quoi raconter ses œuvres à ses enfants. Donc quand Dieu place des enfants parmi nous, dans notre foyer, en tant que parents chrétiens, on ne doit pas oublier que ce que Dieu cherche quand il le fait, c'est de faire connaître à ses enfants ses œuvres de délivrance, son salut, la rédemption, ce qu'il a accompli à la croix du calvaire. Nous avons chanté tout à l'heure la puissance de la croix. Il ne veut pas qu'on le chante le dimanche matin simplement, il veut qu'on le dise à nos enfants et à nos petits-enfants tout au long de la journée, tous les jours. C'est ce qu'on voit par la suite quand on lit ici. C'est là la responsabilité du parent chrétien. Dans le psaume 78, versets 5 et 6, psaume 78, on peut regarder cela, hein, parce que c'est un passage qui parle de la génération aussi. Psaume 78, nous lisons ceci. Verset 3, il dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. » Dieu veut être connu des générations. Il veut, c'est sa volonté. Et la raison pour laquelle il met des enfants dans le sein des foyers, c'est pour que sa connaissance soit transmise de génération en génération. Aujourd'hui, on est préoccupé par le fait uniquement de laisser une planète propre, dit-on, à la génération future. Ce que Dieu nous commande en tant que parents chrétiens, c'est de laisser une connaissance saine de Dieu à la génération future. Et de s'assurer que nos enfants l'entendent, qu'ils le connaissent, pour que leurs enfants l'entendent, qu'ils le connaissent, et pour que leurs enfants l'entendent, qu'ils le connaissent. Sans quoi, c'est la catastrophe. On vit dans un monde qui ne connaît plus Dieu, n'est-ce pas ? Parler aux gens, il y a des gens qui n'ont jamais entendu beaucoup de choses, même en France, de l'Évangile. On a perdu cette connaissance que parfois les plus anciennes avaient ici. Mais pourquoi ? Parce que une génération se lève après une autre sans que les parents qui connaissent se soucient d'enseigner avec diligence la parole de Dieu à leurs enfants. Dans le livre de Josué, de Juges, il est dit qu'il y a une génération qui a suivi l'Éternel pendant toute la vie des anciens, toute la vie de Josué. Et puis le verset d'après dit « Puis il s'éleva une génération qui ne connaissait pas point l'Éternel, ni les œuvres que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Alors ils firent ce qui déplut à l'Éternel. » Tout ça dans Josué chapitre, dans Juges chapitre 2. Hein. Une génération s'élève qui ne connaissait point l'Éternel. Hein. Peut-être vous donner la référence exacte, comme ça vous pouvez la noter. Juges chapitre 2 et le verset 10 dit: toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors, hein, il y a une conséquence ici, firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. D'accord ? Et c'est ce qui nous arrive encore aujourd'hui. Génération qui tombe dans l'idolâtrie parce qu'il n'y a pas, de la part de parents qui auraient dû le faire, de crainte de Dieu qui a consisté à faire connaître à la génération la parole de Dieu. Donc Dieu veut être connu de toutes les générations. Le projet de Dieu, donc c'était mon premier point, pour la famille est que sa parole gouverne toutes les sphères d'activité. que sa parole gouverne toutes nos sphères d'activité, qu'il gouverne nos enfants, mais qu'il gouverne aussi, eh bien, toutes les activités. C'est ce que l'on voit quand on lit le passage. Il dit, au chapitre 6 de Deutéronome, il dit « Tu inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras. » Tout le monde dit, il dit que la parole de Dieu doit pénétrer toutes les sphères, d'accord, de toutes les activités. Il va au sport, ben, il y a occasion de parler de la parole de Dieu. Il fait de la musique, il y a occasion de parler de la parole de Dieu. On va en voyage, en vacances, il y a occasion de parler de la parole de Dieu. Alors, c'est pas juste parler comme ça, mais c'est transmettre une vision biblique de tout ce que l'on fait. Que la parole imprègne et pénètre tout ce que l'on fait. Donc, on développera dans les semaines après plus en détail ces choses-là. Deuxième grande vérité que je voudrais souligner, c'est que les parents sont l'instrument principal de Dieu pour amener les enfants à la conscience de la réalité de Dieu. Les parents sont l'instrument principal de Dieu pour amener les enfants à la conscience de la réalité de Dieu. Dieu est tout suffisant pour toute chose, n'est-ce pas ? Mais il choisit dans sa souveraineté d'accomplir des buts qu'il s'est fixés, et il choisit aussi les moyens par lesquels il va atteindre ce but-là. Et on peut dire ainsi, Dieu a choisi que les générations futures dont il veut être connu d'elles, eh bien qu'elles parviendraient à sa connaissance par le moyen du foyer, de la maison et des parents. C'est comme ça que Dieu a choisi que sa connaissance serait distribuée dans les générations. Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, dit-il, tu les inculqueras à tes enfants. Donc les parents ont cette responsabilité. Mais ce que l'on voit surtout ici, c'est qu'ils sont l'instrument principal. D'accord ? Il ne dit pas, tu chercheras quelqu'un pour leur enseigner les choses, les commandements, les lois, les ordonnances que je t'ai données. Il dit, non, toi, tu vas le faire. Toi, tu vas le faire. Dans le Nouveau Testament, il est dit, et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais instruisez-les. C'est-à-dire, il dit que vous avez cette responsabilité. Il dit pas, allez chercher quelqu'un pour instruire vos enfants. Il dit, vous le faites. C'est-à-dire que les parents sont le principal instrument de Dieu pour amener les enfants à la conscience de la réalité même de Dieu. Concernant Abraham, en Genèse 18, 19, nous lisons ceci. La Bible dit, Abraham deviendra certainement, c'est quand les anges viennent le visiter, Dieu dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations, toutes les familles de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Je l'ai choisi pour qu'il enseigne à ses fils. C'est comme si Dieu dit, voilà, j'ai fait un foyer, j'ai mis des enfants là-dedans pour que ma connaissance puisse être transmise. Il n'a pas dit, j'ai créé une structure à l'extérieur, et puis j'y ai mis des enfants des autres pour que ma connaissance soit transmise. On ne trouve pas ça dans la Bible. Jamais. On trouve que Dieu place dans un foyer pour que sa connaissance soit transmise. Et ça a toujours été comme ça. Pour tous les grands hommes de la Bible, que vous preniez un Gédéon, que vous preniez un autre, que vous preniez Jésus lui-même, il est arrivé où ? Dans un foyer. Et sa mère l'a instruit. Il a appris les vérités. Ce n'est pas juste, ah, je suis Dieu, je n'ai pas besoin d'apprendre. Non, la Bible dit, il a même souffert par les choses, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris à obéir, il a appris à se soumettre. Il a appris les vérités bibliques, il les a mémorisées. Marie a transmis ces choses à Jésus. Et c'est ainsi que Dieu veut que sa parole se propage de génération en génération. Et donc, les parents doivent assumer pleinement leurs responsabilités. Dans notre texte, Dieu charge les parents d'une lourde responsabilité. Elle est énorme. Il dit, tu vas leur inculquer. Vous savez ce que ça veut dire? Inculquer, ça veut dire c'est trancher, c'est quelque chose qui est aiguisé. Le sens, vraiment, c'est ici, tu vas enseigner de manière incisive, de manière à faire pénétrer les choses. C'est une responsabilité énorme, énorme, ici. Et il dit, quand c'est que tu vas le faire? Tu vas le faire quand tu seras dans ta maison. Mais tu vas le faire aussi quand tu seras à l'extérieur de ta maison, quand tu iras en voyage. Tu vas le faire le soir quand tu te coucheras, tu vas le faire quand tu te lèveras le matin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moment de la journée où tu puisses te dispenser d'être de remplir ta responsabilité de parent, cette responsabilité qui consiste à faire connaître Dieu à tes enfants. Il n'y a pas de temps où tu ne puisses pas le faire, où tu puisses te dispenser de le faire. Il n'y a pas de lieu. Si un lieu t'empêche de le faire, mais il ne faut pas aller dans ce lieu. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de lieu. Et puis, pour toi-même, tu devras t'imprégner, tu vas lier cela dans, il dit, entre tes yeux, tu vas mettre la parole sur tes mains, hein, il dit, comme un signe sur tes mains et comme des frontaux entre tes yeux. C'est-à-dire que tes enfants doivent voir que ce qui anime ta pensée, c'est la parole de Dieu, et que ce qui anime tes actions, c'est la parole de Dieu. D'accord? Tu es dans ta maison, tu l'inculques à tes enfants. Comment tu l'inculques? Tu en parles, premièrement. Mais tu le vis aussi. Tes pensées, tes actions sont motivées par la parole de Dieu. Et ils le voient. Ils le voient. Ils voient qu'il y a maman et papa, ou maman toute seule, si vous êtes dans un foyer où il y a maman toute seule, ou papa tout seul, si c'est comme ça que le foyer est, mais il voit que cet homme ou cette femme ou ses parents, eh bien, leur manière de réfléchir est motivée par la parole de Dieu. Que dit la Bible dans ce domaine-là? On va voir. Et, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut penser, même si à l'école on a dit ça. Vous voyez, il voit cela, il voit que vous le mettez en pratique, c'est pas seulement que vous le dites, que vous le pensez, mais vos actions même témoignent que cette parole habite en vous et que vous craignez Dieu. Et Dieu veut que ce soit ainsi que sa parole se transmette. Il dit, tu les écriras même sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Hein? Enlevez toutes les vieilles affiches qu'il y a sur les murs, là, de joueurs de foot ou autre, je ne sais pas. Mettez des versets bibliques pour que ça soit vu, hein, pour savoir que même la maison, on veut qu'elle soit un lieu où la parole de Dieu règne. Et on veut que ce soit un témoignage. Il dit, c'est ainsi que je veux que tu transmettes, hein, que tu assumes cette responsabilité de parent. Ici. Et c'est une charge qui est une lourde charge. Ici. Et Dieu prévoit même qu'il arrivera un temps où les enfants poseront des questions. Parce qu'au verset 20, il dit ceci, « Lorsque ton fils, Deutéronome 6, verset 20, lorsque ton fils te demandera un jour, » Vous quand on vit pour Dieu, il y a parfois des questions qui sont suscitées. Il dit, « Quand ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes et ces lois, ces ordonnances que notre Dieu nous a prescrits ?» Il dit, « Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir par sa main puissante. » Donc Dieu ne veut pas que les parents évacuent rapidement les questions de leurs enfants. Notez ici que l'explication touche à la délivrance, au salut, à la rédemption. Il ne dit pas qu'on soit obligé de donner des pourquoi à toutes les questions des enfants. On ne peut pas. Mais quand il y a des questions de la sorte qui permettent de parler de la délivrance que Dieu accorde, du salut en Jésus-Christ, de la croix, de la puissance de la croix, eh bien, il dit, là, tu réponds. Et tu dis pourquoi tu fais telle chose. Les parents sont parfois fatigués des questions des enfants, hein, surtout quand ils sont petits. Hein. Vous avez déjà vu les tout-petits, ils posent beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est pas toujours évident de répondre à toutes leurs questions. Ils posent des questions sur tout, sur tout. Et on peut imaginer le petit juif qui sort de l'Égypte et qui dit papa, comment le bâton de Moïse est devenu un serpent? C'est un miracle de Dieu. Et puis, mais il dit, oui, mais pourquoi le serpent de Moïse a avalé les autres serpents? Comment il a fait pour avaler les autres serpents? Puis tout ce genre de questions. Hein. Combien de sauterelles il y avait dans la plaie des sauterelles? Elles étaient grosses, elles étaient petites. Si vous avez marché avec des petits-enfants, chaque fois que vous donnez une réponse, votre réponse, c'est une question qui se transforme en une question, qui se transforme en une question, etc. Et puis au bout d'un moment, on a assez, on dit, hey, non, ça va, c'est bon, tu seras plus grand, tu comprendras. Hein. D'accord. Alors bien sûr, quand c'est des questions comme ça, c'est pas toujours, toujours évident. Et puis il arrive que les enfants grandissent et c'est des ados et les questions qu'ils posent ressemblent parfois plus à de la résistance qu'à des questions. N'est-ce pas? Le pourquoi n'est pas pourquoi le bâton de Moïse a avalé des serpents. Hein? D'accord? Le pourquoi, c'est pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi tu me demandes d'obéir? Pourquoi tu... Et c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais je pense que ce que l'Écriture dit ici, c'est qu'on ne doit quand même pas évacuer les questions. On doit pouvoir les saisir pour transmettre la vérité concernant Dieu. Et si vous regardez dans la Bible, il y a plusieurs endroits où Dieu dit cela au peuple. Hein, en Exode chapitre 12, par exemple, je vais vous lire, ne cherchez pas, Exode chapitre 12, qui parle de la délivrance d'Égypte. Dieu dit au verset 24, vous observerez cela comme une alliance pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donne, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, la célébration de la Pâque, célébration de la scène, comme nous le faisons. Il dit, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé au-dessus de la maison, etc., etc. Puis au chapitre 13, on trouve encore la même chose. Hein, la même chose. Et où Dieu demande, voilà, où Dieu dit, bien, vous répondrez, etc., à vos enfants. Chaque fois, il dit, vos enfants vous posent une question, vous expliquez pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous expliquez quelles sont les raisons de votre pratique chrétienne. Vous participez à la scène? Qu'est-ce que ça signifie lorsque tu vas à la Sainte Cène, tu participes? Qu'est-ce que c'est pour toi? Il va pouvoir répondre. On ne va pas dire, va voir le pasteur, il va t'expliquer. Ou quand tu seras plus grand, tu comprendras. On doit pouvoir expliquer simplement la raison pour laquelle on fait les choses. C'est une manière par laquelle Dieu veut que l'on donne, que l'on enseigne sa vérité aux enfants. Pourquoi tu vas au culte le dimanche? Est-ce qu'on est obligé d'y aller tous les dimanches? Ou pourquoi tu ne viens pas à l'étude biblique le mardi? Est-ce qu'il y a une raison biblique? Qu'est-ce que vous répondez? Dieu nous somme de pouvoir donner une réponse à nos enfants. C'est ainsi qu'on les instruit. C'est ainsi qu'on les instruit. Le parent doit s'assurer que ses enfants sont toujours orientés dans la bonne direction. Il a la charge, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, il a cette charge de la part de Dieu. Il doit s'assurer, il doit être vigilant. Il doit être jaloux des enfants que Dieu met dans son sein, que Dieu lui a confiés. Il ne doit pas les abandonner aux sollicitations du monde. Il ne doit pas avoir peur ou avoir honte de monter au créneau quand c'est nécessaire de monter au créneau. Et peu importe contre qui c'est. Si le livre qu'on propose de lire n'est pas correct, non seulement il ne le lira pas, mais on dira qu'il ne le lira pas. Et on proposera autre chose. Mais on ne dira pas, après tout, que voulez-vous, c'est comme ça, bon. Ouais. Parce que vous laissez quelqu'un d'autre remplir la responsabilité que Dieu vous a confiée. Dieu n'a confié à aucune structure, même pas à l'Église, la responsabilité d'éduquer les enfants. L'Église n'a pas la responsabilité d'éduquer les enfants. Jamais. On ne trouve pas ça dans la Bible. Donnez vos enfants à l'Église et puis ils vont les éduquer, puis vous revenez les chercher dans 3 mois. Non, non, ça n'existe pas. Les parents ont autorité sur l'éducation des enfants, même à l'Église. Même à l'Église. Jisraël disait ceci, dit, un vrai chrétien ne doit pas être esclave de la mode. Il veut, s'il veut élever son enfant pour le ciel. Les enfants doivent être élevés pour le ciel. Il ne doit pas se contenter de faire des choses simplement parce que c'est la coutume dans le monde. Tout le monde lit ça, tout le monde regarde ça. Ce n'est qu'une lecture, ce n'est qu'une parodie, ce n'est que ceci. Non. Il dit, il ne doit pas donc se contenter de faire les choses simplement parce que c'est une coutume dans le monde, ni de les enseigner, de les instruire dans certaines voies, simplement parce que c'est l'habitude, de leur permettre de lire des livres d'un genre douteux, simplement parce que tout le monde les lit, de les laisser prendre des habitudes de tendances douteuses, simplement parce que on fait comme ça aujourd'hui. Le vrai chrétien doit avoir l'œil sur l'âme de ses enfants. Le vrai chrétien doit avoir l'œil sur l'âme de ses enfants. Voilà quelle est la responsabilité des parents. Il n'a pas à avoir honte d'entendre son éducation qualifiée de singulière ou étrange. Peu importe si les gens se moquent. Peu importe. C'est une question de salut. Qu'est-ce que ça fait si des gens le disent? La Bible dit que le temps est raccourci, la figure de ce monde passe, hein, ce qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et celui qui a élevé ses enfants pour le ciel plutôt que pour la terre, pour Dieu plutôt que pour l'homme, c'est lui le parent qui sera appelé sage à la fin. On ne doit pas abandonner nos enfants dans ce monde. On a cette responsabilité. Et rappelez-vous de Moïse, hein, lorsqu'il était avec Pharaon dans une lutte avec Pharaon pour laisser sortir le peuple. À un moment donné, Pharaon lui demande, qui sont ceux qui iront? Ok, allez-y, qui sont ceux qui iront? Et Moïse dit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos jeunes, nos bœufs, nos animaux, parce que nous allons servir l'Éternel. Mais nous emmenons nos enfants avec nous. N'est-ce pas à Pharaon? Et combien c'est triste de voir des parents parfois laisser leurs enfants à la maison parce qu'ils n'ont pas envie de venir au culte ou à la réunion. Vous êtes responsable de les y amener. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit ça. Vous avez cette... Dieu vous a confié cette responsabilité. Vous avez un droit de regard sur tout ce qui concerne son éducation, y compris à l'Église. Vous avez un droit de regard. Vous ne laissez pas dans le monde à l'école quand on enseigne n'importe quoi. Vous montez au créneau si ce n'est pas bon. Si l'Église ne fait pas comme il faut, vous le dites aussi. Mais ne dites pas. Quand il sera grand, il fera son choix lui-même. Non, vous avez une énorme influence. Ce que vous êtes en train de faire quand vous le laissez ainsi, vous êtes en train de l'influencer. Vous lui apprenez quelque chose. Lui apprenez que ce n'est pas important d'être à l'Église. Vous apprenez que Dieu, ce n'est pas important de le craindre. Vous lui apprenez que ce que Moïse, la de Moïse, n'est pas celle que l'on doit avoir en disant nous irons avec nos enfants. Vous lui apprenez forcément quelque chose parce que Dieu a investi les parents d'une très grande influence sur les enfants. Les parents sont ceux qui ont la plus grande influence sur les enfants. Et je dirais que toute influence extérieure sur les enfants qui affecte complètement leur vie, c'est celle qu'on laisse sur nos enfants. C'est celle qu'on laisse s'exercer sur nos enfants. Si on n'intervient pas, on laisse l'influence s'exercer. Et Dieu nous a donné, en tant qu'a donné aux parents, une influence considérable. Ils sont les premiers interlocuteurs. Les premières personnes que ces enfants voient, c'est qui? C'est leurs parents, normalement. Ils sont, vous êtes, parents, leurs premiers exemples. La première personne qu'ils voient vivre l'évangile, c'est vous. C'est vous.
Donc vous avez une influence considérable. Dès leur jeune âge, ce qu'ils apprennent, c'est de vous qu'ils l'apprennent. Hein? Vous avez ceux qui ont eu des enfants, ils savent combien parfois c'est douloureux de voir cette réalité-là. Lorsque vous voyez vos enfants qui font un geste ou une parole et puis que votre femme vous dit « Mais ça, c'est toi tout craché. Hein? » Où est-ce qu'il a appris? Il a appris simplement en regardant. Il a regardé papa faire quelque chose et puis il le fait. Il a compris dans quelles circonstances on le fait. Alors parfois, c'est une bonne chose, tant mieux. Mais quand la plupart du temps, c'est des mauvaises choses qui se copient très vite parce qu'on a une influence considérable dans la vie des enfants. Et nous sommes ceux qui passons le plus de temps auprès des enfants. Et les parents doivent donc être conscients de cela et utiliser sciemment cette influence qu'ils ont auprès des enfants. C'est pour ça que Moïse dit, tu inculqueras tes enfants. Il dit, tu seras là-bas. Ça suppose que les enfants sont à l'extérieur, à l'intérieur, le matin, le soir, dans les murs avec les parents. Quand ils vont au culte, ils sont avec eux. Quand ils vont à l'extérieur, ils vont avec eux. Et donc, les parents passent beaucoup de temps et souvent, on veut confier à l'église nos enfants. Hein. Parfois même, on accuse l'église. Hein. De ne pas d'être responsable de la chute de nos enfants ou de l'éloignement de nos enfants. Écoutez ce qu'un pasteur écrivait il y a longtemps. Il dit, il est impossible de vous remplacer. Il s'adressait au père, mais ça peut adresser aussi aux mères. Il dit, il est impossible de vous remplacer. Notre responsabilité en tant que pasteur est grande, la vôtre est sans borne. Notre responsabilité, elle est grande, mais la vôtre, elle est bien au-dessus. Nous pouvons quelque chose, vous pouvez presque tout. Et nous ne pouvons presque rien sans vous. Il dit, vous voyez, la priorité nous manque. Vous, votre œuvre devance la nôtre. Et vos enfants, quand vous les amenez, sont déjà pleins de vos idées, de vos sentiments, de vos habitudes. Vous comprenez ça? Il dit, voilà, il faut s'occuper de mon enfant. Mais en fait, il a déjà été enseigné par toute ton habitude à la maison. Pendant toute la semaine, tu l'amènes le dimanche pendant une demi-heure. Pour qu'on puisse lui enseigner l'écriture. Mais combien de fois on a ouvert la Bible dans la semaine, dans la maison? Mais il a été imprégné par ça. Et 5 jours sans ouvrir la Bible ne peut pas être remplacé par une demi-heure d'ouverture de la Bible le dimanche matin et de manière parfois distraite. Ce qu'il est en train de dire. Il dit, vous avez la priorité. Nous n'avons pas la priorité en tant que pasteur. Et il ajoute ceci. Il dit, le temps nous manque. Vous avez le temps. Il dit, nous n'avons guère pour les instruire pendant quelques mois qu'une heure ou deux par semaine, tandis que pour agir sur eux, les jours et les heures sont à votre disposition avec la liberté de choisir les plus favorables. Voilà toute la latitude que vous avez. Il dit, vous avez l'autorité. L'autorité nous manque. Il dit, avons-nous rien de comparable à cet ascendant que vous donne la nature et que vos enfants subissent comme par instinct? Ne les voyez-vous pas vous épier sans cesse, vous parler, agir et croire comme vous? S'il y a un moment, opposition, lutte dans leur âme entre votre influence et la nôtre, entre nos leçons et vos exemples, est-il naturel, est-il possible que nos enseignements aient le dessus? Oh, considérez donc tous les avantages que vous avez sur nous. Considérons, chers parents, tous les avantages que nous avons sur les enseignants de l'Église quand il s'agit de passer la parole de Dieu. Certes, l'Église peut nous assister, elle doit nous assister dans nos efforts, mais elle ne peut pas nous remplacer. Elle ne peut pas, parce qu'on a, Dieu nous a donné le temps, la priorité et l'autorité, ce qu'il n'a pas donné à l'Église. Il dit, vous êtes les premiers pasteurs de vos familles. Il parlait au père, hein, donc c'est pour ça qu'il dit ça. Vous êtes les premiers pasteurs de vos familles. Mais si vous êtes avec une femme avec les enfants seuls, vous êtes. Je ne veux pas dire la pastrice, mais voilà. Hein, premier pasteur enseignant de votre famille. Vous avez charge d'âme et vous en rendrez compte. Dieu demandera au pasteur de rendre compte de la manière avec laquelle ils ont géré l'Église. Mais Dieu demandera aux parents de rendre compte de la manière avec laquelle ils ont géré leurs enfants. Et on ne pourra pas dire, mais c'est la faute de l'Église. Non, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Il nous faut remplir pleinement notre responsabilité. Vous voulez que vos enfants deviennent des disciples et des rachetés de Jésus-Christ? Il faut pour cela le devenir vous-même. Ça veut dire qu'il faut vivre comme un enfant de Dieu. Si vous voulez avoir une influence qui les conduise au Seigneur. Sinon, vous aurez une influence différente. Et je termine avec ceci. Tout cela nous montre que nous avons besoin de recourir à la grâce de Dieu. Nous avons besoin de recourir à la grâce de Dieu. Qu'on ait des enfants, qu'on soit un enfant, qu'on soit une famille sans enfants, qu'on soit une famille complète avec papa, maman et des enfants, ou avec papa, maman sans enfants, avec papa, avec enfant, maman, avec enfant, peu importe. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de famille parfaite. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. C'est pour ça que Moïse dit, quand tes enfants te posent la question, tu réponds la grâce de Dieu. C'est ce qu'on répond en fait. Quand il dit tu réponds, l'Éternel nous a délivrés, nous étions esclaves, de quoi il parle? Du salut. Il dit donc tu réponds la grâce de Dieu dans l'Évangile. Voilà. Voilà ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous marchons ainsi. Voilà pourquoi nous parlons ainsi. Nous allons en tel lieu et pas en tel autre. Et cela enseigne que ces enfants ont besoin de la grâce de Dieu. Vous ne pourrez pas changer vos enfants. Dieu ne nous demande pas de changer les enfants. Parfois, on est découragé. On dit, oui, j'ai fait tout ce que j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais il a quand même dévié. Dieu ne mesure pas le succès. Quelqu'un disait ceci dans ce que les enfants font. Il mesure le succès de l'éducation parentale dans ce que font les parents. Vous comprenez? Ça veut dire que si les parents sont obéissants au commandement de Dieu d'influencer leurs enfants, de prendre pleinement la responsabilité qui leur incombe, eh bien, c'est du succès. C'est du succès. Il ne dit pas que c'est ce que les enfants vont faire qui mesure le succès des parents. Mais il est clair que si on ne fait pas ce qu'on doit faire, il y a de fortes chances que les enfants dévient davantage. Nous vivons dans une société où on cherche à enlever l'autorité parentale aux enfants. On empêche de faire l'école à la maison, qui était une chose qui se faisait depuis très longtemps. D'accord. Alors peut-être ça ne nous dit pas grand-chose, mais il faut comprendre que nos enfants, comme Pharaon réclamait les enfants d'Égypte, nos enfants sont aussi réclamés afin qu'on leur enseigne forcément hein, des choses. Alors bien sûr, on a besoin de l'école pour les mathématiques, la philo ou la littérature ou des choses, que sais-je, mais on a, de par Dieu, la responsabilité de choisir comment nos enfants doivent être éduqués. Il faut mettre ça dans notre esprit. Ce n'est pas le gouvernement, Pharaon, ce que vous voulez, qui décide ce que nous que nos enfants doivent, de quoi ils doivent être enseignés spirituellement. Ils ont besoin d'apprendre ce que c'est qu'une famille, vraiment, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, ce que c'est que le mariage, tel que l'Écriture l'enseigne. Et si on a le choix de pouvoir mettre nos enfants dans une structure où ils apprennent cela, on le met dans une structure où on appelle cela. On demande au Dieu la possibilité de payer le prix qu'il faut. Et on a besoin de cela, pour cela, de la grâce de Dieu sur nous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que nous ne sommes pas parfaits hein, et nous transmettons plus ce que nous sommes que ce que nous disons. Et on a besoin que la grâce de Dieu nous transforme. Mais on a besoin de la grâce de Dieu sur nos enfants parce que nous ne pouvons pas non plus les transformer. Et nous pouvons prier pour eux que cette grâce les transforme. Et juste un exemple, montrer que Moïse n'était pas dans une famille parfaite, hein, parce qu'il n'a pas, mais dans sa génération, il y a eu aussi des problèmes. Dans le Juge, chapitre 18, verset 30, on trouve un petit-fils de Moïse. C'est écrit petit-fils de Manassé. Mais il semble que juste une lettre a changé et les commentateurs sont d'accord pour dire qu'il s'agit de Moïse. Il s'appelle, pour que c'est écrit le fils de Gershom, fils de Manassé. Qui, vous vous rappelez, en Juges 18, il a été le prêtre pour des païens, hein, dans les régions du nord, ici. Et on voit que ce Moïse qui avait dit « Tu enseigneras à tes enfants et aux enfants et aux fils de ton fils, etc. » Eh bien, dans sa propre génération, il y a eu son petit-fils qui était idolâtre. Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait les choses. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas une question de méthode. C'est une question de s'appuyer sur la grâce de Dieu. D'être conscient que Dieu veut que sa parole pénètre toute notre vie, qu'il veut qu'on le craigne, que l'on s'appuie, que l'on prenne sa parole à cœur, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, que l'on soit conscient qu'il nous a confié une responsabilité d'éduquer nos enfants spirituellement et que c'est à nous qu'il a donné cette responsabilité. Nous avons à l'accepter et nous avons à compter sur sa grâce pour le faire parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne le faisons pas, on continuera à écrire des chapitres et des chapitres disant « Il s'éleva une génération après celle-là qui ne connaissait point l'Éternel et qui fit ce qui déplaît à l'Éternel. » Si nous avons péché dans ce domaine, ce que nous pouvons faire, c'est nous repentir. Demander pardon pour le laxisme qui a été le nôtre, pour le manque d'attention quand nos enfants sont à l'école. Nous devons, pour le manque d'intérêt même sur ce qu'ils apprennent, on doit être préoccupés par ce qu'ils apprennent. On est à la chasse de tout ce qui est l'erreur parce qu'on veut que la parole de Dieu pénètre leur cœur. Mais surtout qu'on leur enseigne la parole de Dieu afin qu'ils soient armés. Demandons pardon au Seigneur si nous ne l'avons pas fait. Mais demandons-lui la grâce de le faire à partir d'aujourd'hui même pour la gloire de son nom afin de construire une famille en Christ dans ce monde en crise. Prions. Seigneur notre Dieu, te remercions encore pour ta parole et nous sommes conscients de notre faiblesse, de nos manquements, de tout ce que nous avons fait, laissé faire, qui n'est pas de toi. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes vraiment ce désir de serrer ta parole dans nos cœurs. Que ta parole soit dans nos cœurs comme nous l'avons lu, que nous t'aimions, que nous cherchions à l'inculquer à nos enfants, comme tu nous le commandes, Seigneur. Et même si nous n'avons pas d'enfants, Seigneur, nous sommes parfois les uns pour les autres un parent, quelque part, parce que nous avons plus ou moins d'ancienneté par rapport à d'autres, ou peut-être nous avons accès aussi aux enfants des autres dans l'enseignement, des classes, que tu nous donnes ce souci de transmettre ta parole, de te faire connaître, de dispenser l'amour pour ton nom, que tu nous donnes de pouvoir enseigner que tu es le Dieu sauveur, le seul qui sauve, afin que chacun puisse mettre sa confiance en toi. Oui, Seigneur, nous te prions que nous soyons comme Jochebed, ne craignant pas les ordres du roi, mais te craignant toi, afin de garder ta loi. Aide-nous, nous t'en prions, pour la gloire de ton nom. Amen.